France Inter, Hélène Roussel. Le 7-9.
Le journal, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Tension à son maximum au Moyen-Orient avec un affrontement direct entre les États-Unis et l'Iran. Le général Soleimani, un des plus puissants gardiens de la révolution iranienne, tué dans une frappe américaine à Bagdad. Washington assume, Téhéran crie vengeance. Nous irons en Iran et aux États-Unis dès le début du journal. Dans le reste de l'actualité, Agnès.
Un 30e jour de grève dans les transports, la SNCF promet d'assurer les retours de vacances. Changer de banque reste compliqué et coûteux selon l'UFC. Que choisir ? Un médicament sur tirage au sort, l'initiative des laboratoires Novartis provoque une polémique et puis des révélations sur le régime alimentaire des hommes préhistoriques, adeptes déjà du 5 fruits, légumes et tubercules par jour.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Alexandra Ben Saïd reçoit Jeanne Balibar, César de la meilleure actrice il y a 2 ans, réalisatrice de Merveille à Montfermeil, son premier film qui sort la semaine prochaine au cinéma. À 8h20, dans le grand entretien de la matinale, l'écrivain Jean Echenoz, il publie Vie de Gérard Fulmar aux éditions de Minuit. Vous voulez lui parler, lui poser vos questions, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et sur l'application mobile de France Inter.
France Inter.
C'est donc bien le puissant général Rassem Soleimani qui était visé par Washington lors de cette frappe la nuit dernière qui a touché un convoi près de la zone de fret de l'aéroport de Bagdad. Plusieurs combattants pro-Iran ont été tués, dont le chef de l'unité d'élite des gardiens de la révolution iranienne. Âgé de 62 ans, il était l'un des personnages les plus populaires d'Iran. Direction donc tout de suite Téhéran, où nous retrouvons notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour.
Bonjour.
Siavosh, le général Soleimani était considéré comme l'homme clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Irak.
Alors effectivement, le général Rassem Soleimani était un militaire très très important dans l'appareil à la fois politique et militaire de l'Iran. Il était donc depuis de nombreuses années le chef du corps ROTS des gardiens de la Révolution. Le corps ROTS est chargé des opérations extérieures des gardiens de la Révolution. Donc dans toute la région, il a joué un rôle très important, notamment pour soutenir le régime du président syrien Bachar al-Assad. Le général Soleimani a également joué un rôle important pour renforcer le soutien de l'Iran au Hezbollah libanais. Et c'était un homme très proche du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei. Donc on peut s'attendre à une réaction très dure de la part de l'Iran. Et d'ailleurs, le Conseil suprême de la Sécurité nationale doit avoir dans la matinée une réunion d'urgence. Et le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a prévenu que la réaction de l'Iran sera très dure à ce qu'il a appelé l'acte terroriste des États-Unis. Il a affirmé que Washington sera responsable de toutes les conséquences de cet acte qu'il a qualifié de criminel.
Merci Siavosh Ghazi à Téhéran ce matin pour France Inter. Et j'ajoute que 3 jours de deuil national viennent d'être décrétés en Iran. Bonjour Franck Matevon.
Bonjour Agnès.
Revenons d'abord avec vous sur ce qui s'est passé la nuit dernière à Bagdad. C'est la conséquence d'une semaine de très vives tensions.
Oui, alors on ne connaît pas tous les détails sur ce raid, mais on sait qu'il a été ordonné directement par Donald Trump. Ce raid aérien, selon des sources militaires américaines, a visé cette nuit 2 véhicules près de l'aéroport de Bagdad. Il y a au moins 9 morts, dont Qassem Soleimani, cette figure clé donc du régime iranien, mais aussi le chef opérationnel des Hajd al-Shaabi, ces milices pro-Iran puissantes en Irak. Pour le Pentagone, cette opération vise à éviter de nouveaux projets d'attaque iraniens. D'après Washington, Soleimani est responsable de nombreuses attaques visant des intérêts américains, notamment les tirs de roquettes ces dernières semaines contre des soldats en Irak. Un Américain avait en effet été tué. Les États-Unis avaient d'ailleurs riposté dimanche 25 miliciens pro-Iran en Irak. Leur ambassade à Bagdad avait été prise pour cible mardi par des manifestants.
Alors Siavosh Ghazi à Téhéran nous a dit que le Conseil de sécurité nationale iranien va se réunir dans les heures qui viennent. Quelle peut être la réaction de Téhéran ?
Oui, alors clairement, ce raid marque un tournant au Moyen-Orient. Le guide suprême iranien Ali Khamenei crie vengeance ce matin. Cette opération intervient dans un contexte, il faut le rappeler, de fortes tensions entre Iraniens et Américains. Retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire en 2018, rétablissement des sanctions américaines. L'Iran est revenu sur de nombreux engagements dans cet accord et il est accusé d'avoir mené une campagne de déstabilisation au Moyen-Orient. Raid contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, attaque de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, soldats et diplomates américains pris pour cible en Irak. Tous ces incidents sont attribués à l'Iran. On peut supposer que cette campagne va s'intensifier. L'Iran ne réagira sans doute pas à chaud, mais il a de très nombreux moyens d'action dans plusieurs pays, Yémen, Syrie, Liban, Irak. Le Moyen-Orient sera certainement dans les semaines à venir le théâtre de nouvelles attaques attribuées à Téhéran.
Merci Franck Matovon pour ce décryptage diplomatique. Et nous partons tout de suite aux États-Unis retrouver le correspondant permanent de France Inter à Washington, Grégory Phillips. Bonjour Grégory.
Bonjour Agnès.
La tension était palpable, donc on vient de l'entendre depuis une semaine, à travers également les tweets de Donald Trump. Et c'est d'ailleurs lui, le président américain, lui seul, Grégory, qui a pris la décision de ces frappes cette nuit.
Oui, en tout cas, les représentants démocrates affirment que le Congrès n'a été ni consulté, ni même informé de cette opération militaire d'une extrême gravité, dit le patron démocrate de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants. Dans l'opposition aussi, réaction très ferme du candidat à la présidentielle, Joe Biden, pour l'ancien vice-président de Barack Obama. Donald Trump vient tout simplement de lancer un bâton de dynamite dans une poudrière. Et puis, une autre candidate à la Maison Blanche, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, dit que cette escalade augmente encore un peu plus le risque d'une guerre coûteuse au Proche-Orient. En revanche, les élus républicains évidemment soutiennent l'initiative du président Trump. Lindsey Graham, le sénateur de Caroline du Sud, qui est un proche du président, salue une action courageuse et menace les Iraniens et leurs installations pétrolières. Si vous en voulez plus, vous en aurez plus. Quant à Donald Trump, il n'a pour l'instant pas fait le moindre commentaire, si ce n'est ce tweet sibyllin publié quelques minutes avant le communiqué du Pentagone. Un simple drapeau américain, comme pour annoncer, avant que ce soit officialisé par le ministère américain de la Défense, la mort de ce général iranien qui, vous l'avez dit tout à l'heure, est bien plus qu'un simple haut gradé.
Merci Grégory Phillips en direct de Washington pour France Inter. Et je rappelle donc la toute dernière réaction de Téhéran. L'ayatollah Ali Khamenei déclare qu'une terrible vengeance attend les criminels ayant assassiné le général Soleimani.
Il est 7h07, à la suite du journal avec vous Agnès Soubiran. L'actualité en France avec le conflit toujours sur la réforme des retraites.
Avec plusieurs manifestations hier, notamment à Marseille, en fin d'après-midi, près de 2000 personnes ont participé, torche à la main, à une descente au flambeau sur la Canebière. Côte à côte, gilets rouges de la CGT, gilets jaunes et enseignants. Et aujourd'hui, ce sont les professions libérales qui sont appelées à rejoindre le mouvement. Les médecins, avocats, infirmières et pilotes. Deux syndicats d'Air France appellent d'ailleurs à la grève à partir de lundi. Dans les transports, c'est aujourd'hui le 30e jour de grève avec une amélioration sensible cette fin de semaine pour assurer les retours de vacances. Deux TGV sur 3 en circulation en moyenne. Comment la SNCF parvient-elle à s'organiser? Élément de réponse avec Maxime Debs.
Il y a d'abord les grévistes, dont le nombre diminue, 6,9% hier, moins d'un conducteur sur deux, toujours dans le mouvement, selon la direction. Tout ça doublé d'un jeu d'équilibriste, comme en novembre, et le droit de retrait exercé dans les centres de maintenance. Les trains ont été savamment dispatchés dans et vers les gares où la demande pour ce week-end était la plus forte. Pour le reste, une partie des agents réservistes que la SNCF déploie depuis le début du mouvement ont été quelque peu préservés en début de semaine, de telle manière à ce qu'ils puissent être pleinement mobilisés ce week-end. Enfin, tout a été calculé, assure un porte-parole de l'entreprise, en tenant compte du nombre d'allées effectuées. On sait, avec plus ou moins de précision depuis des jours, le nombre de retours qu'il nous faut garantir.
Et côté RATP, la ligne 7 bis reste fermée, les autres fonctionnent partiellement et toujours 3 bus sur 4 en moyenne pour les RER A et B, comptez un train sur deux. Les très bons résultats d'Airbus en 2019 vont se traduire par des embauches en 2020. 1500 à 2000 à Toulouse, c'est une information de nos confrères de France Bleu Occitanie, et 5000 personnes dans le monde car les carnets de commandes sont pleins avec notamment un millier d'A320, A321 et autres A350 à livrer dans les 12 prochains mois. Changer de banque est toujours aussi compliqué et aussi cher, c'est le constat dressé par l'UFC Que Choisir, malgré la loi Macron votée en 2015 qui était censée faciliter la mobilité bancaire. Le dispositif n'a pas porté ses fruits, estime Mathieu Robin, il est spécialiste du secteur financier au sein de l'association de consommateurs et il est au micro de Fabien Cazot.
Au global, alors qu'il y a un consommateur sur cinq qui souhaite changer d'établissement bancaire, vous avez simplement un nombre extrêmement faible de personnes qui changent. Et pourquoi est-ce qu'elles ne changent pas? Notamment parce que le dispositif mis en œuvre par la loi Macron dysfonctionne. On s'aperçoit qu'il y a simplement 40% des mandats qui aboutissent à la clôture de l'ancien compte, ce qui veut dire en réalité qu'au lieu de favoriser la concurrence, ce mandat de mobilité bancaire, il instaure des consommateurs qui vont disposer de plusieurs comptes bancaires, donc ils vont payer deux fois des frais bancaires, et ce qui n'était pas du tout l'objet de cette loi. Et le dernier point, alors qu'on nous promettait un transfert automatique des données, des prélèvements et des virements vers le nouveau compte, cette mise en œuvre, elle est largement imparfaite, et en conséquence, vous allez avoir des frais d'incident qui vont être facturés aux consommateurs et qui vont se rajouter au coût total de la mobilité bancaire. Donc, au total, effectivement, vous avez un taux de mobilité bancaire qui reste extrêmement faible, 4 fois inférieur à la moyenne en Europe, et des tarifs bancaires qui restent extrêmement élevés et qui ne baissent pas malgré l'agressivité des banques en ligne.
Les banques traditionnelles sont toujours aussi chères, c'est à lire aussi sur franceinter.fr.
Faudra-t-il un jour compter sur un tirage au sort pour obtenir un médicament ?
Novartis, qui produit le Zolgensma, médicament à l'unité le plus cher au monde qui peut sauver la vie d'enfants atteints d'une maladie génétique rare, ce laboratoire a décidé d'organiser un tirage au sort pour l'offrir à 100 bébés qui en ont besoin dans le monde. La France n'est pas concernée, mais le procédé forcément choque Véronique Julia et interroge sur le coût et l'accès aux médicaments innovants.
En France, Agnès Buzyn l'a bien précisé pendant les vacances, l'accès aux médicaments innovants est garanti par l'organisation de notre système de santé. Rien à craindre donc pour les bébés diagnostiqués. Ces 6 derniers mois d'ailleurs, 7 enfants ont été traités en France avec succès. Les États-Unis où le médicament est déjà négocié et commercialisé ne sont pas concernés non plus. En revanche, partout ailleurs, des parents qui voudraient avoir accès à cette injection pour sauver leur enfant de moins de 2 ans vont donc devoir subir l'insoutenable attente d'un tirage au sort, procédé indécent pour Christophe Duguay. Il dirige les affaires publiques de la FM Téléthon.
Nous, on a été profondément choqués sur le fait de pouvoir imaginer que la vie d'un enfant puisse être le gros lot d'une loterie. Mmh. Même si Novartis annonce que ce tirage se faisant tous les 15 jours, les enfants non retenus pourront être candidats au tirage suivant. La probabilité de pouvoir être éligible, vu les milliers d'enfants potentiellement concernés, sera excessivement faible de toute façon.
Alors, coût marketing ou démarche philanthropique, Novartis explique vouloir faire profiter au plus vite certains enfants de son injection, alors que les autorisations de mise sur le marché se font attendre, en Europe notamment. Pour être efficace, l'injection doit être pratiquée le plus tôt possible. Sans le traitement, l'espérance de vie dans les formes les plus lourdes n'excède pas 2 ans.
Enfin, c'est un régime en vogue, le régime paléolithique. Il fait la part belle aux aliments supposés avoir été consommés par les hommes préhistoriques, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'agriculture. Au menu donc viande, poisson, fruits et légumes, mais ni blé, ni huile, ni produits laitiers, ni légumineuses. Et pourtant, les recherches avançant, on découvre dans une étude franco-sud-africaine publiée ce matin qu'il y a 170 000 ans, les hommes en Afrique du Sud mangeaient des tubercules cuite par-dessus le marché. Sophie Bécherel.
Montre-moi tes dents, je te dirai ce que tu as mangé. C'est ainsi que procèdent les préhistoriens pour connaître le régime alimentaire de nos ancêtres. Grâce à l'analyse du tartre dentaire, par exemple, ou de l'usure des molaires, les scientifiques avaient déjà identifié la présence d'amidon issu de végétaux. Cette nouvelle étude apporte la confirmation directe de la consommation, non pas de feuilles, mais de tubercules, il y a 170 000 ans, dans la couche géologique étudiée de minuscules boulettes noires issues de la racine d'Hypoxys augustifolia, une plante qui garde ses feuilles toute l'année, bien pratique pour la repérer. Francesco De Rico est archéologue au CNRS, il a participé à cette recherche.
Vous pouvez ramasser les tubercules soit en arrachant la plante, soit en fouillant avec un bâton. Et nous avons montré qu'ils les ont ramenés au site. Et certains de ces tubercules ont été mal cuits parce qu'ils sont tous brûlés.
Cuire les tubercules permettait de faciliter la digestion de la plante et ramollissait aussi la chair. Francesco De Rico.
Les chasseurs-cueilleurs, c'est des expérimentateurs. Ils avaient déjà le feu et donc ils pouvaient arriver à la conclusion qu'une fois cuites ces petits tubercules, elles permettaient d'exploiter au maximum le potentiel alimentaire. Donc d'acquérir les glucides.
Les glucides, une source d'énergie essentielle à l'homme moderne comme à l'homme préhistorique, sauf que lui, à l'époque, n'avait pas encore les céréales et devait se contenter du miel.
Et puis, dernière information en provenance d'Iran. Téhéran convoque ce matin un responsable de l'ambassade de Suisse qui représente les intérêts américains à Téhéran après la mort, donc la nuit dernière, du puissant général iranien Rassam Soleimani, tué lors d'un raid américain en Irak.
Et il y a une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. Merci Agnès Soubiran pour ce journal. Dans 3 minutes, Secret d'Info a enquêté sur les minorités chinoises en France.